Les pasteurs Philippe Anchaud et Selina Imhof se réjouissent de pouvoir partager, en réponse à ces questionnements, des paroles de l'évangile de Marc sur deux dimanches consécutifs. Ce matin, et depuis cette église évangélique de Mérin, c'est Selina Imhof qui évoquera les textes du chapitre 5, où une femme a des pertes de sang depuis plusieurs années et où la fille de Jaïrus meurt. Elle nous communiquera qu'à l'heure où la pandémie isole les plus vulnérables et bouche les perspectives d'avenir des plus jeunes, il n'est jamais trop tard pour que la vie de chacun prenne un sens nouveau. C'est du moins ce qu'elle croit. La pasteure est entourée de Joël Dupertuis et David Porter qui prêtent leur voix aux lectures et prières. Où que vous soyez, bienvenue à vous pour cette heure de culte. Le culte de ce matin est diffusé depuis l'église évangélique de Mérin. Pour vous permettre de vivre ces moments, c'est le technicien Eric Sauji qui est aux commandes de la régie mobile d'Espace 2 qu'il a installée dans cette église évangélique et c'est Bastien Meucli qui est en régie à Lausanne. Comme le chant est interdit pour des raisons sanitaires, nous entendrons des chants préenregistrés, des chants tirés du recueil de Jeunesse en mission. Tout de suite, nous vous proposons d'entrer en recueillement avec un prélude instrumental avec flûte irlandaise et piano.
Bienvenue à chacun. Ça fait plaisir de se retrouver ici ce dimanche matin. Bienvenue à vous qui êtes présents ici, jeunes, moins jeunes. Bienvenue également aux enfants qui se retrouvent de leur côté dans l'ancienne chapelle. Nous sommes à l'église évangélique de Mérin pour notre culte. Nous sommes présents là, en direct. Mais nous vous retrouvons aussi en streaming, et surtout pour aujourd'hui et pour dimanche prochain, grâce à la radio, nous vous retrouvons peut-être dans votre foyer, dans votre voiture, au travail, durant un footing. Bienvenue à chacun donc pour ce temps partagé entre nous, mais surtout partagé avec Dieu. Que ce temps soit riche et bienfaisant pour chacun de nous. Ici à Mérin, nous avons la chance de pouvoir collaborer avec les autres églises du village, de la cité. Et nous avons à cœur de rejoindre notre voisinage, ici, localement. Alors ce matin, nous sommes aussi particulièrement reconnaissants de pouvoir partager ce temps encore un peu plus loin, grâce à la RTS. Merci à tous ceux qui permettent ces retransmissions, qui travaillent à ces cultes, qui ont préparé ce culte-là en préparant les enregistrements aussi. Ce matin, je vous salue de la part de Dieu lui-même, qui nous accueille chacun, qui nous accueille chacune. De la part de ce Dieu qui se révèle dans la Bible, il est à la fois créateur de toutes choses, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir, et le Dieu qui a marché parmi nous il y a quelques 2000 ans, mais qui marche à nos côtés aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, il nous rejoint, quelle que soit notre situation, notre parcours. Alors, comme David dans la Bible, et comme le chant que nous avons entendu, même s'il n'y avait pas les paroles, que nous puissions dire « Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Dieu est ma haute retraite et mon refuge. » Ce matin, il nous appelle à nous arrêter d'une manière ou d'une autre pour prendre un temps à part, pour le louer, le proclamer, pour être à son écoute et pour lui parler. Alors, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous tournons nos cœurs vers toi et nous voulons te demander d'être présent avec nous et dans chacune de nos vies. Tout va très vite autour de nous et dans nos vies. Ces jours de pandémie remettent parfois certaines choses à leur place, mais avec toutes les incertitudes et les souffrances qui y sont liées, nous avons toujours plus besoin de toi. Ce matin, tu nous invites à prendre une pause et tu nous dis « Il n'est jamais trop tard ». Tu veux être toujours plus présent dans nos vies et tout autour de nous. Alors nous voulons te consacrer ce temps, nous tourner vers toi et te demander de le bénir. Que tu nous rendes disponibles pour toi. Nous te remettons également ceux qui nous sont chers et qui ne sont pas à nos côtés, pour toutes sortes de raisons. Que tu les rejoignes également et que tu nous permettes d'être des témoins pour eux. Amen. Thank you.
Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Éternel, tu es miséricordieux et compatissant. Tu nous sondes et tu nous connais, mais tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Merci pour ta grâce. Merci pour cette paix qui vient de toi, qui surpasse toute intelligence. Qu'elle puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui s'est humilié lui-même, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Merci pour cette croix. Merci Père que tu l'as souverainement élevée et lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Comme annoncé tout à l'heure, nous allons lire dans Marc 5, les versets 22 à 43. Un des dirigeants de la synagogue, nommé Jairos, arriva. Il voit Jésus, tombe à ses pieds et le supplie avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Viens poser les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule le suivait et on le pressait de tous côtés.
Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme tremblait de peur, parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme Jésus parlait encore, des gens arrivent de la maison du dirigeant de la synagogue et lui disent, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ? Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit au dirigeant de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du dirigeant de la synagogue, où Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fait tous sortir, prend avec lui le père, la mère et ses trois disciples. Puis il entre dans la pièce où se trouve l'enfant. Il la prend par la main et lui dit « Talitha cum ». Cela se traduit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». La jeune fille, qui avait 12 ans, se leva aussitôt et se mit à marcher. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne et il dit de lui donner à manger.
Thank you.
L'histoire que l'on vient d'entendre, c'est l'histoire de deux femmes. L'une est encore presque une enfant. L'autre a déjà trop connu le monde adulte. Ces deux femmes ne se croiseront pas. Et pourtant, leurs histoires s'entremêlent en dialoguant sur les thèmes de la détresse, de la mort et de la vie. Même si c'est une histoire de femmes, c'est un homme qui vient en premier faire irruption dans le récit. Cet homme, c'est Jaïrus, le chef de la synagogue du coin. Par son statut, tout le monde doit le connaître et sans doute l'apprécier. Mais Jaïrus a un problème. Sa fille chérie est très malade. Elle est sur le point de mourir. Et face à ça, il ne peut rien faire. Quand on est confronté aux questions de vie ou de mort, il ne reste plus que l'essentiel. Alors peu importe que Jésus ait été critiqué pour son manque de respect pour la pratique de la loi et des rituels juifs, peu importe les ragots, les jugements, les qu'en dira-t-on, Jésus offre la vie. Et si la vie est sur le point de s'éteindre pour sa fille, Jaïrus doit tout mettre en œuvre pour que Jésus vienne ranimer la vie. Donc pas le choix, devant tout le monde. Et il y avait foule. Il se jette aux pieds de Jésus et le supplie pour qu'il vienne apporter la guérison dans sa maison. Tout est visible. Tout le monde le voit. Tout le monde veut voir ce qu'il va se passer. Jésus ne dit rien et se met en route, direction la maison du chef de la synagogue. En parlant de la synagogue, vous savez qui n'y va jamais? Cette femme-là, qui cherche à passer inaperçue. Si elle n'y va pas, c'est parce qu'elle n'en a pas le droit. Et pourtant, elle le désire de tout son cœur. Cette femme souffre depuis des années. Elle saigne comme toutes les femmes saignent en devenant adultes. Mais pour elle, cela ne s'arrête jamais, ou quasiment jamais. À cause de ce sang qui coule, la loi la qualifie de impure. Elle ne doit approcher personne. Elle ne peut pas demander la prière, faire des offrandes ou autres rites pour être au bénéfice des bénédictions de Dieu. Alors, elle est allée voir un médecin, puis deux, puis toute personne qui promettait un soulagement contre quelques pièces. Les iatros, en grec, ces médecins ont été incapables de comprendre son mal et ils n'ont fait qu'aggraver sa souffrance. On appelle cela la iatrogénie, lorsqu'un traitement médical fait plus de mal que de bien. Cette femme souffrait physiquement. Cette femme souffrait financièrement. Tout son argent avait été dilapidé. Cette femme souffrait socialement, car sans le soutien de la communauté, sans la synagogue, elle n'existe pas. Elle n'existe pas aux yeux des autres. Vous voyez Jaïrus, chef de la synagogue, au-devant de la foule, et vous ne voyez pas cette femme qui souffre derrière la foule. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour être guérie, et elle a tout perdu. Face à cette foule et à Jésus au milieu, il ne lui restait pas d'autre option. Être invisible, une faiblesse qui, ma foi, tout à coup, est devenue une force. Sans se faire remarquer, sans rien demander, elle se faufile. Elle s'approche du maître qui donne la vie et touche son vêtement. Un seul bout de tissu et la voilà guérie instantanément. Tout son corps a tressailli lorsque la maladie est partie. Un corps purifié à découvrir. Une nouvelle vie à explorer. Jésus aussi a senti une force sortir de lui. La femme n'était pas inaperçu pour lui. Si aux yeux du monde, on peut se sentir inexistant, le Seigneur, lui, nous connaît dans chaque cellule de notre être et jusqu'au tréfonds de notre âme. Il a reconnu la vie qui s'est exprimée subitement. C'est bien pour cela qu'il est venu, Jésus. Parmi la foule, il la reconnaît. « Ah, c'est toi ! Tu as reçu la vie ! Tu as bien fait d'y croire, car à présent, te voilà guéri. Sois enfin en paix. » Cette femme le savait. La vie, on n'en a qu'une. Alors même si elle est pleine de souffrances, on doit en prendre soin jusqu'à la fin. Ce n'est pas à la synagogue qu'elle a appris ça. Elle l'a appris de son instinct de vie. Un instinct qui l'a poussé à chercher partout, par tous les moyens, la guérison et la vie. Jusqu'à frôler la ruine complète, dans tous les sens du terme. Une vie ruinée par le malheur. Mais lorsqu'on croise le chemin de Jésus, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard tant que ce n'est pas la fin. Mais il semble que ce soit la fin pour cette autre femme, enfin je veux dire pour cette toute jeune fille. Car juste après la guérison de la femme qui perdait du sang, on vient annoncer à Jaïrus que tout est fini pour sa fille. Elle est morte et il n'y a plus rien à faire. Il y a un vrai clivage ici. Jésus s'est arrêté pour s'occuper de cette femme plus âgée et n'a pas pu s'occuper de cette toute jeune fille et elle est morte. Alors, est-ce qu'une guérison doit forcément se faire au détriment d'une autre ? Le bien des uns se fait-il forcément au prix du malheur des autres ? Dans ce temps de pandémie, c'est une question qui se pose à toute la société. Devant le virus, nous cherchons à protéger les personnes vulnérables. Elles ne doivent pas être contaminées. Alors, la vie sociale s'arrête et beaucoup en souffrent. Pour le bien des uns, ce sont d'autres qui souffrent. Il y a un vrai sentiment d'injustice qui peut naître alors. Une profonde colère, car nous touchons à des questions de vie ou de mort, et même de survie. Il y a un déséquilibre très mal vécu, car tout le monde a peur pour sa propre vie. Qu'a bien pu penser Jaïrus lorsqu'on lui a annoncé qu'il était trop tard pour sa fille qui était morte ? Cette femme qui fait perdre du temps à Jésus lui a coûté la vie de sa fille. La nécessité de préserver le système sanitaire coûte la vie et les emplois d'autres personnes. Comment rester solidaire lorsque ce sont nos vies qui sont en jeu ? On a l'impression que certains sont sacrifiés au profit d'autres. Est-ce que la vie de la fille de Jaïrus a été sacrifiée pour la santé de la femme qui perdait du sang ? Jaïrus ne connaît pas la fin de cette histoire à ce moment-là. Et il ne connaît pas non plus l'étendue du pouvoir de Jésus sur la vie et sur la mort. Et je pense que la fin de l'histoire a de quoi nous rendre humbles et ouvrir la porte à ce qu'il nous est inconnu, sans crainte. C'est quelque chose de mystérieux et il faut vraiment avoir le cœur ouvert pour le comprendre. Voilà pourquoi, pour la suite de cette histoire, peu de personnes seront conviées à voir une nouvelle réalité. Qui est ouvert à voir des choses nouvelles ? Des choses qu'on imagine impossibles. Notre peur de la mort nous empêche très souvent de voir d'autres alternatives possibles à la vie. C'est là que la rencontre avec Jésus est déterminante. Mais venons-nous aussi il nous convie dans la maison de Jaïrus, où déjà on entend les cris de lamentation, comme c'était d'usage à cette époque, lorsque quelqu'un venait de mourir. Elle était si jeune, elle avait la vie devant elle. Elle n'a pas pu en profiter. À 12 ans, selon la tradition, on devient une femme. Elle, elle est restée une enfant. Jésus est venu trop tard. Vous voyez, comme souvent, on voit le pire. Mais Jésus est là. Il n'est pas absent de cette histoire, ni de cette maison. Et s'il est là, forcément, ce n'est pas la mort qui régnera. D'un geste tout simple, comme lorsque quelqu'un est tombé et qu'on veut l'aider à se relever, Jésus prend la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum, jeune fille, lève-toi ». Elle n'est plus une enfant. Talitha, c'est bien l'adulte en devenir en araméen. « Lève-toi ». Elle s'est levée et elle a marché. Ce qui était impossible, ce qui paraissait trop tard, était juste à temps. Elle s'est levée et elle est vivante. Si vivante que Jésus demande qu'on lui apporte à manger. Elle a besoin de reprendre des forces. La jeunesse, en particulier dans cette période, a besoin qu'on lui tende la main, qu'on lui dise qu'il n'est pas trop tard. Lève-toi, prends des forces, deviens adulte. La vie est encore possible. La vie est encore possible pour cette femme usée et ruinée par la maladie et les mauvais soins. Jésus est intervenu, car elle a toujours cru que si elle était en vie, c'était pour la vie. La vie est accessible pour cette jeune fille. Même si tout paraît obstrué, sans possibilité, si les choses paraissent à l'arrêt et qu'on a l'impression d'être sacrifié, Jésus est là. Vois-le. Vois sa main s'offrir à toi pour te relever. Il n'est jamais trop tard. Prends soin de ta vie et marche.
Seigneur, tu nous rappelles qu'il n'est jamais trop tard. Quelle que soit notre situation, nos difficultés, notre parcours, tu nous rappelles que tu nous tends la main parce que tu as des projets de vie pour nous. Parfois, je ne la vois pas, ta main. Parfois, je ne la cherche même pas. Et pourtant, elle est là, tendue vers moi. Tendu vers chacun de nous. Merci parce qu'il n'est pas trop tard ce matin. Alors que je puisse saisir ta main et que tu me relèves, que tu me rétablisses, me renouvelles et que tu me guérisses. Et Seigneur, ce matin, je veux aussi te demander de me permettre, de nous permettre d'être cette main pour mon voisin, pour mes amis et pour tous ceux qui en ont besoin. Amen.
Le chant maintenant numéro 1117 du recueil Jeunesse en mission.
Thank you. pas me recoiffer devant tout le monde.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Il n'est jamais trop tard pour avancer sur ton chemin, celui où le Seigneur te place. Il n'est jamais trop tard pour en visiter chaque paysage. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour découvrir des ressources nouvelles et des opportunités inattendues. Il n'est jamais trop tard pour t'approcher de Dieu. Il n'est jamais trop tard, car Jésus se présente à toi pour avancer à tes côtés, à chacun de tes pas. Si tu tombes, il te dit « Lève-toi et marche ». Inspirons-nous des paroles du psaume 90 dans nos prières. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Reviens Seigneur, n'attends plus. Accorde ta grâce à ceux qui te servent. Dès le matin, comble-nous de ton amour. Nous crierons de joie. Nous nous réjouirons toute notre vie. Longtemps, tu nous as accablés. Donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous avons eu de malheur. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que le Seigneur vous comble de sa bonté, de sa sagesse et de sa clairvoyance pour chaque jour, chaque instant qu'il vous donne de vivre. Qu'il vous accompagne de sa douce présence. Amen. Merci de nous avoir accompagnés durant ce culte, à vous qui êtes ici, ou vous qui nous regardez depuis chez vous, et à vous, chers auditeurs de la RTS. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine. Nous nous quittons avec la douce mélodie de « Comme un fleuve immense ». Bonne semaine à chacun d'entre vous.
Bonjour. Alors, pour les annonces, maintenant c'est terminé, on ne nous entend plus. Pour les annonces, quelques petites indications en termes sanitaires. Alors, ça a peut-être été un peu dur pour vous la semaine dernière, ce que j'ai pu dire, mais étonnamment, ça s'est un peu assoupli pour les sorties de culte. Donc, comme d'habitude, on va prendre la sortie de secours qui est derrière. Par contre, on peut rester et faire des groupes de 5 en respectant les consignes qu'on a l'habitude de connaître et vivre quand même des moments de discussion après le culte. Donc ça, c'est un peu assoupli. Je rappelle toujours pour tout ce qui concerne les dons pour la vie de l'Église. Donc vous pouvez faire soit en déposant dans le petit panier qui est à la sortie, soit avec Twint ou via le CCP, faire des dons à l'Église. Et puis, comme ça a été rappelé, la semaine prochaine, de nouveau un culte radio diffusé. Et puis aussi, vous allez bientôt recevoir un petit message pour un colloque extraordinaire. Alors vous allez me dire, un colloque extraordinaire dans cette période, ça va être un petit peu difficile, mais on va tester quelque chose. Je pense que vous avez tous apprécié, et puis pour ceux qui ne sont pas connectés, il n'y a pas de souci, on fera le nécessaire aussi. Nous avons monté un groupe pour le conseil, puisque le conseil va être renouvelé cette année. Et puis, il faut simplement qu'il y ait un colloque extraordinaire pour pouvoir l'approuver par la communauté. Et nous allons le faire en ligne, avec un vote en ligne que nous allons tester. Alors, on a un petit peu testé, nous, en interne, au niveau du conseil. Ça a l'air de fonctionner. Et on va le tester comme ça. C'est assez simple, mais c'est une nouveauté. Et on s'adapte à la nouvelle technologie. Donc, vous allez bientôt recevoir des indications par email pour l'approbation de ce groupe. Sinon, pour les dernières nouvelles, voilà, je te laisse la parole.
Voilà, moi je voulais juste vous remercier en tout cas pour ce culte. Ce n'est pas toujours qu'on vient dans une église évangélique. Vous avez peut-être noté l'erreur de ma collègue qui disait on est chez les réformés, l'église évangélique de Mérin. Vous voyez qu'on est encore des fois un peu méconnus comme évangélique. En tout cas, merci vraiment pour ces moments. Je vous souhaite une belle suite de dimanche. Merci aussi d'être là pour ceux qui peuvent dimanche prochain. C'est chouette quand même de voir ces quelques personnes qui peuvent encore se réunir. Et puis merci à la technique et un coup de chapeau notamment à mon collègue Eric Sauji qui a eu très très peur au début de la célébration avec le couac technique, mais ça a été très bien récupéré par la régie à Lausanne. Donc au niveau radio, je pense que ça a été impeccable. Et puis je rappelle que je distribue volontiers donc les marque-pages, enfin je vais les laisser aussi, et puis si vous voulez la prédication sous forme de papier ou sous forme de CD, donc on peut vous l'envoyer. Très volontiers. En tout cas, merci beaucoup pour ces moments et puis je vous souhaite une belle suite de dimanche. Merci.